talmudique. Au début des temps, il y a eu des gens pour raconter et des gens pour les écouter. Ensuite, il y a eu des gens pour écrire et d'autres pour lire. Et puis, entre celui qui écrivait et celui qui lisait, il y a eu le livre. On ne sait pas ce qu'est un livre, personne ne le sait, mais on sait quand il y en a un. C'est quand l'on sent que l'on n'est pas encore mort. Cette profonde réflexion que j'ai trouvée chez Marguerite Duras, sentir que l'on n'est pas encore mort, c'est, je crois, ce que l'on ressent en découvrant ou en redécouvrant l'œuvre de Sholem Aleichem, célébrissime auteur yiddish qui a réjoui de sa plume des centaines de milliers de lecteurs. Nous avons commencé à parler la semaine dernière avec deux de ses traductrices à l'occasion de la sortie d'un joli petit coffret aux éditions de l'Antilope qui contient deux titres, Les Mille et Une Nuits de Krushnik et Gittel Puriskevitch et d'autres héros dépités. Nadia Dehan-Rothschild, Evelyne Grimbert, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre voyage dans l'œuvre et autour de Sholem Aleichem, car j'aimerais que nous abordions aujourd'hui l'héritage de ce grand écrivain. Ce matin, Gilles Rosier, votre éditeur, nous a rejoints pour que nous formions un quatuor klezmer qui va s'interroger sur la postérité de Sholem Aleichem et son actualité dans le monde d'aujourd'hui. Un monde où le Yiddishland a disparu dans le Khurban, la grande destruction, mais où survit peut-être l'univers du Yiddish, le Yiddish comme univers. Et de cette remarque découle ma première question. Quand vous traduisiez du Yiddish, avez-vous l'impression de traduire une langue morte ou une langue vivante? Je précise ma question en citant Rachel Hertel, que nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir dans cette émission. Elle écrit « Traduire le Yiddish, c'est en quelque sorte de faire le deuil de la langue assassinée, en la transfusant dans la vitalité d'une autre. Mais simultanément, il s'agit, comme pour les écrivains, de faire œuvre d'art, c'est-à-dire concilier des affects contradictoires. Le deuil de la langue et la jouissance esthétique de la translation, de la transposition de l'écriture. Et cet écartèlement génère un trouble profond qui peut aller jusqu'au mal-être, jusqu'au remords. » Fin de citation. Personnellement et existentiellement, comment vivez-vous votre travail de traductrice et de traducteur? Ressentez-vous ces affects contradictoires? Evelyne Grimbert.
Alors, personnellement, je n'ai pas du tout la même expérience que Rachel Hertel, que je comprends très bien, parce qu'elle a vécu sa jeunesse dans le monde yiddish, dans un milieu d'écrivains, d'artistes, et ce milieu, elle l'a perdu. Moi, j'ai entendu le yiddish dans mon enfance en France et dans un milieu qui n'était pas intellectuel, qui était éloigné de la culture yiddish et de la tradition. Et donc, je ne vis pas la traduction du yiddish comme un deuil, car quand j'ai commencé à apprendre le yiddish, j'ai découvert tout un monde. J'ai gagné ce monde auquel je n'avais pas eu accès auparavant. Et j'ai au contraire une sensation de vie, de bouillonnement de vie. Et même les auteurs me parlent comme des vivants. Je vais peut-être passer pour une folle. J'entends résonner le yiddish tout le temps. Et je l'entends aussi au quotidien à la Maison de la Culture Yiddish.
Nadia ?
Moi, c'est à peu près la même chose pour moi, même si c'est de la littérature, mais la littérature, c'est une langue vivante pour moi. Peut-être même plus vivante que les langues de plastique qui ont cours dans notre monde. Et les livres vivent de leur vie éternelle de papier, si vous me permettez l'image un peu d'oxymore. Et effectivement, c'est une langue qui a été en partie assassinée, mais qui est toujours parlée. Et pas seulement dans les milieux religieux. Il y a effectivement venez à la Maison de la Culture Yiddish, vous verrez des gens de tous les âges qui viennent parler, apprendre, chanter, écouter du théâtre ou des concerts. Voilà.
Gilles Rosier.
Moi, c'est précisément le contraire de Rachel Hertel, c'est-à-dire que je pense que l'apprentissage de yiddish, la traduction du yiddish et l'édition de textes yiddish m'a permis de sortir du deuil dans lequel j'étais dans mon enfance. J'ai grandi dans une famille décimée et me relier à la langue de mon grand-père assassiné, c'est ce qui m'a permis de vivre.
Sholem Aleichem écrivait en yiddish, mais il fut très vite traduit en d'autres langues, ce qui a contribué à sa diffusion et à sa reconnaissance. Quelle est l'histoire des traductions de Sholem Aleichem, Gilles Rosier?
Alors, il a été assez rapidement traduit en russe, déjà, puisqu'il est né à Kiev, donc c'était des langues voisines. Et puis, il a été traduit très rapidement aussi. Une de ses filles a épousé un écrivain hébraïque qui s'appelait Yud Dalet Berkovitz. Et Yud Dalet Berkovitz l'a traduit en hébreu dès les années 1910, de sorte que le public hébraïque a le privilège d'avoir des traductions de Sholem Aleichem par son propre gendre, qui est lui-même écrivain. En français, la première traduction date de 1925, c'est un de ces... vous disiez dans la précédente émission qu'il était le roi de la nouvelle, mais il a aussi publié quelques très beaux romans, et en fait le premier texte traduit, c'est son roman Thévier le laitier, qui a été traduit par un poète juif français d'origine alsacienne, donc qui connaissait le yiddish alsacien, Edmond Flegg, mais qui est une sorte de gageur. Il a voulu transposer dans le parler des paysans, des juifs franco-alsaciens. Après, dans les années 60, il y a le Tailleur ensorcelé et autres contes qui a été publié dans une traduction de Isaac Pugatch. Et c'est le mot conte qui m'interpelle, parce que Sholem Aleichem n'a jamais écrit de conte, il a toujours écrit des nouvelles. C'est comme si, à l'époque, des textes venant du Yiddish Land, ça pouvait être que des contes, quoi. Ça pouvait pas être de la grande littérature, entre guillemets. Et puis, mais surtout, les traductions remarquables, elles datent des années 80, 90, puis de 2000, avec, à mon sens, deux traducteurs qui ont vraiment changé la donne. Ça a été Jacques Mandelbaum, Nadia Dehan Rothschild ici présente, puis Evelyne Grimbert, qui travaille avec Nadia à présent. Jacques Mandelbaum a traduit il a participé. Il y a eu un collectif de traducteurs qui a traduit les contes ferroviaires, donc des nouvelles qui se passent dans un train. Nadia Dehan Rothschild a traduit La peste soit de l'Amérique, qui est la deuxième partie de Menachem Mendel le rêveur, dont on parlait dans la précédente émission. Et Nadia a aussi traduit Remémore-moi ce que tu as traduit.
Il y a Un conseil avisé, qui est un long monologue, et puis après ce que j'ai traduit chez toi.
Voilà, Gitel Porishkevitch et autres héros dépités, que Nadia a traduit toute seule, puis Les mille et une nuits de Krouchnik, une traduction de Nadia Dehan Rothschild et Evelyne Grimbert.
Mais il est traduit aussi dans toutes les langues, c'est-à-dire en anglais, en allemand.
Ah oui, bien sûr, il est traduit en anglais, en allemand. C'est sans doute un des écrivains yiddish avec Isaac Bashevis-Zinger, le traduit de manière le plus internationale. Son héritage est en fait immense dans la littérature, mais aussi dans le cinéma et dans plein d'autres choses. Dont on
Alors justement, la traduction du yiddish de Sholem Aleichem est une façon de faire entrer le yiddish dans la culture universelle. Peut-on dire que les héritiers de la littérature yiddish font entrer le yiddish et sa culture dans cette universalité, même lorsqu'ils n'écrivent plus directement en yiddish, mais en anglais par exemple? Je pense, entre autres, à Bernard Malamud, Saül Bellow, Cynthia Ozick, Philippe Roth, Paul Auster, Woody Allen aussi, et encore à la nouvelle génération des Jonathan Safran-Foer, Shalom Auslander et quelques autres. Je sais que tous ces auteurs ont énergiquement protesté contre les critiques qui voulaient qualifier leur écrit de littérature juive et eux-mêmes d'écrivains juifs. Ils n'ont pas voulu être enfermés dans un ghetto, mais considérés comme des écrivains américains ou des écrivains tout court. Je pense que Sholem Aleichem pensait aussi que son art était universel, lui que l'on comparera à Mark Twain ou Tchekhov. Ces remarques m'amènent à vous demander qui sont les héritiers de Sholem Aleichem.
Moi, je dirais qu'il est peut-être plus évident de lui trouver soit des ancêtres, Gogol par exemple, dans les gens un peu plus âgés que lui, ou des frères, Tchekhov, ou des cousins. Je pensais à Anatole France de L'île des pingouins sur l'affaire Dreyfus, Mark Twain que vous avez évoqué, qui a réussi à faire rire avec les horreurs de la colonisation au Congo. On trouve plus comme ça des parentés que peut-être des héritiers, je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, pour reprendre puisqu'on a entendu la semaine dernière la voix de le témoignage de Jean-Claude Grimbert sur Sholem Aleichem, on trouve chez Jean-Claude Grimbert lui-même des échos tout à fait intéressants de l'écriture de Sholem Aleichem. Il y a le même goût des ruptures de style, un humour assez qui peut être tragique, grinçant. Par exemple, dans son dernier livre, La plus précieuse des marchandises, il détourne une expression idiomatique, être né sous une bonne étoile, pour en faire être né sous une bonne étoile jaune. Ça change pas mal les choses. Dans l'atelier aussi, ou dans sa pièce Dreyfus, on a ce même mélange de tragique et de comique et d'attention, de sympathie avec ces personnages.
Gilles Rozier, Les Héritiers.
Alors Les Héritiers, moi je dirais que parmi tous les auteurs que vous avez cités, je vois pas d'héritage direct, mais ils ont sans doute eu la même expérience que nous avons eue en apprenant le yiddish, c'est-à-dire que la grâce de la littérature, c'est de rester. Et de rester après que ce monde du Yiddishland a été assassiné. Donc nous nous sommes personnellement reliés au Yiddish et au Yiddishland par la littérature yiddish. Et je pense que ces écrivains, ce qui fait leur plume américaine, c'est aussi les bibliothèques qu'ils ont dans leur tête, et y compris Sholem Aleichem ou d'autres écrivains yiddish. Et d'où l'importance de la traduction, bien entendu.
Alors on parle du yiddish depuis deux semaines. Peut-être pour certains auditeurs, le yiddish est une langue un peu étrange ou étrangère. Il faut peut-être rappeler ce que c'est, même si c'est une évidence, cette langue forgée essentiellement d'allemand et d'autres langues. Qui veut répondre ?
C'est une langue surtout des plus anciennes langues européennes, puisqu'elle a à peu près 1000 ans. Et c'est effectivement une langue, ce qu'on appelle une langue de fusion, c'est-à-dire un mélange, un doux mélange entre un substrat d'origine germanique, effectivement, mais avec des apports hébraïques, araméens, romans aussi, il y a aussi un peu de français dans le yiddish, et surtout slave, après que les juifs sont partis des pays de langue allemande vers les pays de langue slave. Et à la période contemporaine, beaucoup d'anglais aussi, parce qu'il y a beaucoup de juifs yiddishophones qui habitent aux États-Unis, et de l'hébreu en Israël, de l'hébreu moderne en Israël. Mais surtout, ce qui est important, c'est le côté fusion, c'est-à-dire que le yiddish, il attrape tout ce qui passe. Il se laisse pénétrer par toutes les langues qui se passent.
Est-ce que c'est de là que vient sa saveur?
Sa complexité, sans aucun doute, pour nous autres qui l'avons étudié, c'est pas évident d'étudier le yiddish, parce que faut percevoir toutes les nuances qui viennent d'autres langues, mais effectivement aussi sans doute sa saveur, parce que c'est une langue très, ça a l'air, on dit en général que c'est un dialecte, en fait c'est une langue extrêmement riche et très savoureuse.
Oui, ce plurilinguisme qu'il y a déjà dans le yiddish, c'est justement une des difficultés et un des défis pour la traduction, parce que Sholem Aleichem, par exemple, quand il fait des jeux de mots, il peut surfer sur plusieurs langues. Après, il faut essayer de rendre ça...
Lui, il surfe et nous, on rame.
Ça pourrait être du Sholem Aleichem.
Oui.
Anigen wie Sod, was David hat gespielt vor Gott, nur dir wird's nicht gewähn, als a Yeshua. Und man singt a Zoi, a Fall, a Sol, a Mischeberich hebt a Kol, der Duller Melech webt a Halleluja. Deine Munde ist gewollen schwach, Bosheva bot sich auf dem Dach, ihr Chaim, die Levone, dein Refuah. Und sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneidet von deiner Haare Zopp und zieht von Meul a Robe, Halleluja. Und heire, ich kenn dein Stil, Ich bin geschlafen auf dein Deal, ich hab kein Mal nicht gelebt mit der Satznur. Nur ich seh dein Schloss, ich seh dein Fond, ein Herz ist nicht kein Melechs Thron, es ist ein Kalte und ein Kalle, ja, Halleluja. wie amolt azog mir ois Wus tut sich dorten in dein Scheuss Du wusch darfst dich schämen wie a Psoe Und gedenk wie ich hab in dir geruht Wie die Schiene glut in unser Blut Und jeder rot im Tod Halleluja
Leonard Cohen, Alléluia, dans une version de Daniel Kahn, un musicien klezmer dont le groupe s'appelle Daniel Kahn and the Painted Bird, d'après le livre de Jerzy Kosinski du même nom. En écoutant cette version de la chanson de Leonard Cohen, on peut avoir l'étrange impression que nous écoutons la version originale et que c'est la version anglaise qui en est la traduction. Comme si la langue yiddish avait cette vertu étrange de plonger au cœur même des choses et de l'âme. Est-ce une expérience dont on vous a déjà fait part à propos de textes non pas traduits du yiddish, mais traduits d'autres langues en yiddish? Et comment avez-vous entendu cette version de Alléluia de Leonard Cohen, Nadia Der Rothschild?
J'ai eu une expérience comme ça, et peut-être d'autres gens aussi. Il y a 2 ans, pour le centenaire de la naissance de Samuel Beckett, le centre culturel irlandais avait invité une troupe de New York qui jouait en entendant Godot en yiddish. Et c'était extraordinaire. Et on avait effectivement l'impression qu'il y avait des harmoniques très très forte dans cette traduction qu'on oubliait peut-être en regardant simplement en écoutant la version française.
En ce qui concerne cette chanson de Leonard Cohen, c'est pas du tout une traduction, c'est une adaptation et totalement enjuivée. Alors bon, Leonard Cohen a un fond juif très fort, même s'il ne le dit pas forcément dans ses chansons, c'est sans doute ce qui vous donne cette sensation. Et ça me fait penser aux traductions de la littérature européenne en yiddish à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où on disait en général « far yiddish tun far bessert », c'est-à-dire « enjuivé et amélioré ». Et c'était le Robinson Crusoe est juif, dont le vendredi s'appelait Shabbes, etc. Donc il y avait une tradition d'enjuivés où au Moyen-Âge, les chevaliers étaient devenus des rabbis ou des rois de l'Ancien Testament ou du Talmud. Donc il y a aussi, effectivement, on parle de traduction de Sholem Aleichem en français, mais la traduction de la littérature mondiale en yiddish, ça donne l'héritier, c'est Daniel Kahn avec sa version de Leonard Cohen.
Juivé dans un sens très positif du terme.
Pas très
dans
positif, c'est-à-dire que je ne me souviens pas que la chanson Alléluia de Leonard Cohen parle de la présence divine, des juifs qui se sont éloignés de la tradition, des apicoires, comme on dit. Et donc là, c'est vraiment une interprétation, en fait.
Evelyne, alors ça me permet de poser une question suivante. L'influence de Shalom Aleichem et cette entrée de l'univers du yiddish dans l'imaginaire universel, grâce à la traduction, ne s'arrête pas à la littérature, mais concerne aussi la musique, le théâtre et le cinéma. Et je pense bien sûr au Violon sur le toit, dont le film et la comédie musicale ont fait le tour du monde et ne sont pas étrangers à la renommée de Shalom Aleichem, une comédie musicale au cœur de l'actualité, puisqu'il fut donné par l'Opéra National du Rhin du 6 décembre au 12 janvier dernier. Il y a dans cette œuvre comme une quintessence de l'art de Sholem Aleichem dans un shtetl, je résume un peu l'histoire, de la Russie d'avant la Révolution. Anatevka, c'est l'histoire à la fois drôle et bouleversante de Thévier, le laitier, et de ses 5 filles. Les 3 filles aînées de Thévier refusent les époux que leur père leur destine, mettant en pièce une tradition ancestrale. Le contexte dans lequel se déroule cette comédie des amours tourne vite au dramatique. Confrontée à un pogrom, la communauté juive d'Anatevka doit fuir pour sa survie. Le rêve de quitter l'Europe pour les États-Unis s'avère être pour Thévier la seule véritable solution afin d'échapper à l'antisémitisme qui gagne l'Europe. La première version de cette comédie musicale date de 1964 à Broadway, suivie du film en 71. Pas moins de 3243 représentations durant 8 années consécutives. Cette nouvelle production en français de 2019, que l'on doit à Barry Kosky, fut triomphalement accueillie lors de sa création à Berlin en 2017. Et sa présence le mois dernier à l'Opéra du Rhin dit quelque chose de très fort, de la modernité, de l'indémodabilité de Sholem Aleichem. Comment l'interprétez-vous ? Nadia Dern Rothschild?
Là, peut-être parce que Sholem Aleichem lui-même était un homme moderne. En tout cas, très, très intéressé par tous les phénomènes de la vie moderne. Et par exemple, on a entendu dans l'autre émission, on a entendu sa propre voix qu'il a enregistrée, donc c'était les tout débuts des enregistrements sonores. Il a aussi écrit des scénarios, essayé d'adapter ses propres œuvres pour en faire des scénarios de films. Donc il aurait été sans doute très très content d'être adapté au cinéma, et il l'a été dès 1919. Il y a une première version muette de Thévier le laitier. Puis ensuite, alors il y aura pas moins de, sur cette œuvre-là, pas moins de 5 adaptations avant la comédie musicale et le film que vous avez déjà mentionné. Il y a un film de 39, alors assez lacrymal, disons. Mais il y a aussi une adaptation film russe, alors qui lui montre que non, entre les juifs et les chrétiens, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ou presque. C'était la faute du tsar, mais sinon ça allait bien. Et puis il y a une adaptation israélienne où il est question non pas d'émigrer contraints et forcés en Amérique, mais de venir rejoindre la terre des ancêtres. Voilà. Donc c'est ce qui prouve que ces livres parlent encore aux gens d'aujourd'hui, quitte à ce qu'ils infléchissent un petit peu le contenu en fonction de leurs propres idéologies. Voilà.
Oui, on peut voir que l'indémodabilité, elle vient d'abord de l'universalité des sujets. Quand on voit des héros aux prises avec un monde hostile, difficile, des héros qui essayent de s'adapter aux évolutions de leur environnement, aux nouvelles technologies, à des enfants qui partent dans toutes les directions, à la guerre, à l'émigration, il me semble que ça peut rappeler quelque chose aujourd'hui.
Tout à fait.
Et ça souligne la parenté avec les personnages de Chaplin. C'est-à-dire, là aussi, faire rire à partir d'événements tragiques.
Gilles Rosier.
En l'occurrence, les trois premières filles de Thévier, dans Le violon sur le toit, la première refuse d'épouser celui que son père lui destine, mais qui est un juif traditionnel. La deuxième veut épouser un juif révolutionnaire, donc elle se retrouve en Sibérie à suivre son mari qui est relégué en Sibérie. Et la troisième, elle épouse un goy, elle se convertit au christianisme orthodoxe. Et Thévier, à chaque fois, il essaye de s'adapter. C'est à la troisième, il commence à dire non, là, c'est plus possible. Mais les deux premières, il s'adapte quand même assez bien. Et ça aussi, c'est un thème. Bon, les générations, la confrontation entre la tradition et la modernité, ce sont des thèmes qui sont toujours actuels.
Alors, dans ses dernières volontés, Sholem Aleichem demande à ses enfants et à leurs amis de lire un de ses textes, de se souvenir de son nom en riant, sinon de l'oublier. Nous sommes tous en quelque sorte les héritiers de Sholem Aleichem. Comment pensez-vous que son testament soit respecté au-delà de la cérémonie formelle d'une lecture en riant le jour de son Yahrzeit, c'est-à-dire de l'anniversaire de sa mort? Que voulait-il instituer par cette lecture? Ne pensait-il qu'à lui ou à la littérature yiddish et au-delà de la littérature en général? Imaginons Sholem Aleichem ministre de la culture aujourd'hui, que nous proposerait-il? Evelyne Grimbert.
Alors, il me semble que avec cette injonction de rire pour l'anniversaire de sa mort, c'est le rire comme étincelle de liberté. C'est se tourner vers la vie, vers la créativité de la vie, et surtout de s'éloigner des commémorations mortifères. Voilà ce que ça me suggère.
Ministre,
je pense pas qu'il avait le profil.
Oui. Si, moi je pense qu'il aurait pu, mais à condition qu'on adjoigne au ministère de la Culture le ministère de la Santé. Parce que c'est Sholem Aleichem qui a conclu un de ses récits, d'ailleurs ensorcelé, en disant « Rire est bon pour la santé, les médecins ordonnent de rire ».
Il faudrait presque créer un ministère de la lecture.
Oui.
Qui serait aussi
un chapeauterait.
Et un ministère de la bibliothérapie.
D'accord.
Aussi.
Mais cette injonction, c'est une injonction de revenir au texte. Sholem Aleichem, il y a des bibliothèques Sholem Aleichem dans le monde, il y a des écoles Sholem Aleichem, il y a des timbres-poste, des monnaies commémoratives, des statues. Et lui, il dit, mais en fait, si vous voulez vous souvenir de moi, mais lisez mes textes, lisez mes livres. Et ça, c'est magnifique. C'est vrai qu'on est dans une époque où on a plus tendance à parler des auteurs que de leur œuvre. Et c'est bien qu'un auteur, 100 ans après, nous rappelle que c'est ses livres qu'il faut lire.
Ces livres qu'il faut lire, peut-être alors lisons un passage en yiddish qui veut s'y coller.
Un passage en yiddish, alors il y a son épitaphe par exemple.
Oui.
Il a écrit sur sa tombe « Dolik tayid aposhater geschrieben yiddishtait schwarweiber und fahren prosten volk iser gewen a humorist a schreiber » c'est-à-dire Sigi, un petit juif qui écrivait en yiddish pour les femmes et pour le petit peuple, il était écrivain et humoriste.
Alors, beaucoup d'humour, et comme tout le monde, à un certain moment, ben, il va mourir, mais jeune, puisqu'on a vu la semaine dernière qu'il est mort à l'âge de 57 ans, ce qui est quand même très jeune, mais c'est dû à ses déplacements, ses exils, ses émigrations, ses difficultés.
Et une bonne tuberculose.
Et une bonne tuberculose qui ne se soignait pas à l'époque. J'aimerais lire, pour terminer ces deux émissions consacrées à Sholem Aleichem, le récit de son enterrement. Ça se passe un lundi du mois de mai 1916. Une foule de milliers de personnes en deuil envahit les rues de New York. Les rideaux des boutiques juives sont baissés. Ceux qui peuvent se le permettre ne travaillent pas et sont rassemblés tôt le matin devant un modeste immeuble situé dans le Bronx. À 9h, le cortège se mit en route. Parti de Kelly Street, il traversa Manhattan et l'East River pour arriver à Williamsburg, dans Brooklyn, où habitaient de nombreuses familles juives, puis poursuivi en direction du Queens. Lorsqu'il atteignit la synagogue Ohev Tzedek, à l'ouest de Central Park, le célèbre cantor Yossel Rosenblatt entama la prière du El Malé Rachamim à la mémoire du défunt. Une centaine d'enfants chantant des psaumes conduisaient le cortège funèbre par la 2e avenue jusqu'au centre de formation juif situé sur Jefferson Street. Là, on porta le cercueil dans l'auditorium et on y lut publiquement un récit de la plume du défunt qui, disait-il dans son testament, était l'un des plus réussis. Le testament fut également lu, ainsi que les dispositions concernant l'enterrement. Le premier des 10 paragraphes indiquait le lieu de la sépulture. « Quel que soit le lieu où je meurs, je ne veux pas être enterré au milieu d'aristocrates ou de puissants, mais au milieu de travailleurs juifs simples, le vrai peuple, pour que la pierre recouvrant ma pierre tombale éclaire les modestes tombes qui l'entourent et que ces modestes tombes illuminent ma pierre tombale, tout comme ces hommes simples et bons ont éclairé leur écrivain populaire durant sa vie. Plus de 150 000 personnes rendirent ce jour-là un dernier hommage à Sholem Aleichem, leur écrivain, jusqu'au cimetière du Mont Carmel à New York. Merci Nadia Dehan-Rothschild, merci Evelyne Grimbert, merci Gilles Rosier pour ce partage qui reste joyeux malgré la lecture un peu triste de cet enterrement. Partage joyeux autour d'un homme qui nous aide à toujours trouver le meilleur de chaque moment de l'existence. Merci de nous avoir fait découvrir l'homme et l'œuvre et les harmoniques d'une langue, le yiddish, qui n'a pas fini de faire entendre sa mélodie. Je rappelle le titre du très joli petit coffret intitulé « Les petits mondes de Sholem Aleichem » qui contient les titres suivants « Les mille et une nuits de Krouchnik » et « Gitel Puriskevitch et autres héros dépités » paru dans cette jeune, belle et dynamique maison d'édition de l'Antilope. C'était talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet talmudique. Kol Touv, Das Beste für alle, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.